Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Cette femme a été surnommée la maman la plus méchante en Amérique. On l'appelait aussi Crazy Shelley et elle portait bien son nom parce que cette femme, elle adorait torturer, humilier, manipuler et blesser les gens qu'elle était supposée aimer. En 2004, elle a été reconnue coupable des meurtres au second degré de Kathy Loreno et Ronald Woodward. Par contre, ses crimes sont loin d'être les seuls qu'elle aura commis. Restez là pour la suite. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire vraiment difficile. En fait, ça fait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi terrible, pour être honnête. Bon, vous savez, à force de raconter des histoires à chaque semaine depuis des années maintenant, je peux pas pleurer à chaque fois. Oui, ça va m'émouvoir, ça va me rendre triste, ça va me fâcher, mais j'ai quand même de la facilité, heureusement, à passer à une autre histoire, donc passer à un autre appel, si on veut. Mais là, cette histoire-là, l'histoire de Shelley Notek, ça m'a bouleversée même à certains moments. Je me suis surprise à avoir les yeux dans l'eau, à avoir les larmes aux yeux, à lire toutes ces horreurs-là. Ça m'a bouleversée, ça m'a touchée, puis je pense que ça va vous faire probablement la même chose. Juste un petit heads-up, là, je suis dans ma nouvelle maison, comme vous pouvez voir. Ceci dit, j'ai pas encore mon bureau de prêt, là, au moment que je filme, il est juste là, mon bureau, je le vois, puis il y a encore plein de boîtes, puis je fais venir un ébéniste, là, pour me faire une belle bibliothèque et un beau studio. Ça va ressembler à avant, là, juste une bibliothèque de livres, mais c'est vraiment, c'est loin d'être prêt en ce moment, fait que je trouve certains endroits random pour filmer, là, je suis devant ma table tournante. C'est difficile dans ma maison parce qu'il y a des fenêtres et des miroirs un peu partout. Fait que là, j'ai une fenêtre là, j'ai un miroir là, fait que je peux pas filmer devant le miroir. Bref, ça, c'est un peu compliqué. Ceux qui m'écoutent en audio doivent se dire, ben, on s'en fout, on te voit pas. Puis je pense que ça change rien, honnêtement, là, que je filme ici plutôt qu'un bureau. Mais bon, je voulais juste vous le dire avant. Podcast Over and Out. Donc, je crois que cette histoire commence réellement dans la ville de Battleground à Washington le 15 avril 1954, soit à la naissance de Michelle. Donc, en fait, son nom complet, c'est Michelle Lynn Watson Rivardo Long Notek. Mais elle est surnommée Shelley. Il faut le dire, depuis très jeune, Shelley, c'est une enfant extrêmement difficile. Et on le sait, là, tout se joue à l'enfance pour forger un humain, un adulte. Mais Shelley, elle, c'est comme si elle aimait la dispute, la chicane. Elle aimait faire des crises. Elle refusait l'autorité. Si elle n'était pas d'accord avec une décision, si l'idée venait pas d'elle, ben, ça tournait mal à chaque fois. Elle mentait aussi beaucoup Par exemple, elle n'aimait pas faire ses devoirs, donc elle les faisait pas, puis quand elle se faisait disputer, elle disait toujours que c'était sa petite sœur qui avait détruit ses devoirs. Chaque matin, Shirley se levait fâchée, de mauvaise humeur, puis ça doit être tellement lourd vivre avec quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur le matin. Puis ses parents devaient littéralement se battre avec elle pour qu'elle accepte d'aller à l'école chaque matin. Et c'était quand même difficile à concevoir qu'une enfant aussi belle ait un côté aussi sombre. Quoique ça n'a pas vraiment d'importance, je veux dire, l'apparence de quelqu'un, ça détermine pas son intérieur. Tu sais, elle avait une belle chevelure rousse, elle avait des longs cils, des yeux bleus, plein de points de rousseur. C'est ça, elle avait un petit air angélique, mais c'était loin d'être la vérité. C'est sûr qu'en même temps, Shirley est pas née comme ça. Elle a malheureusement commencé sa vie avec des bases, disons, un peu instables. En fait, elle vivait avec son père et sa belle-mère, Lara, parce que sa mère pouvait pas s'occuper de ses enfants, malheureusement. Et quand Shirley a eu 13 ans, elle a appris que sa mère avait été assassinée dans une chambre de motel. Elle avait été battue à mort. Mais pourtant, quand Shirley a appris ce qui est arrivé à sa mère, puis tu sais, à 13 ans, t'es assez mature pour comprendre que ta mère a été battue à mort, c'est comme si elle n'a pas eu de réaction, comme si elle n'était pas du tout affectée par ça. Malheureusement, on va voir plus tard que ça l'a probablement plus touchée qu'on le croit. Shirley avait un comportement très sombre, très vengeur, mesquin. Par exemple, c'est arrivé à quelques reprises qu'elle brisait de la vaisselle, des verres, pour avoir plusieurs petits morceaux de vitre qu'elle plaçait dans les chaussures et les bottes de ses petits frères et sœurs. Sinon, elle aimait voler ses camarades de classe, elle détruisait leurs effets personnels. C'est comme si elle aimait beaucoup voir les gens autour d'elle souffrir. Et ça, on va voir que ça va pas changer du tout. À l'âge adulte, en fait, ça va empirer. Juste pour vous montrer le genre de trucs que Shirley faisait, quand elle avait 15 ans, donc en mars 1969, une journée, elle est allée à l'école, comme à tous les matins, mais le soir, elle n'est pas rentrée de l'école comme d'habitude. Fait que là, ses parents étaient comme, ouais, elle est en retard, tu sais, qu'est-ce qui se passe? En fait, Shirley, elle avait dit à un intervenant à l'école que ça se passait pas du tout bien à la maison et qu'elle ne pouvait plus le supporter. Après quelques heures sans nouvelles, la police a appelé à la maison, donc pour parler au père de Shirley et à la belle-mère de Shirley, pour leur demander de se présenter au poste en vitesse. Et en fait, Shirley avait accusé son père de l'avoir violée à plusieurs reprises. Et vous en douterez que c'était un mensonge, c'était inventé de toutes pièces. Après avoir été examinée par un docteur, effectivement, il n'y avait comme aucune trace de violence physique ou sexuelle. Et c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Elle aimait raconter à l'école, à ses voisins, à ses amis, que le père de sa belle-mère, Lara, donc son père, il l'avait aussi agressé sexuellement, alors que c'était très loin d'être la vérité. Donc vous voyez qu'elle aimait faire le mal autour d'elle. Après ça, le comportement de la fillette allait de pire en pire. Son école secondaire ne la voulait plus à l'école, et les autres écoles du coin non plus ne la voulaient plus. Et on peut comprendre parce que les autres écoles avaient entendu parler de son comportement, de ses mensonges. Ils ne voulaient pas d'une élève comme ça à leur école. Et à la maison, ben, c'était pas mal pareil. C'était difficile, surtout parce que c'était Lara, la belle-mère, qui devait s'en occuper, donc c'était même pas son enfant à elle. Bon, tu sais, si t'aimes l'enfant, c'est facile de t'en occuper, mais avec un diable comme ça à la maison, ça doit être horrible. Et toute la journée, Shirley n'arrêtait pas de dire à Lara qu'elle la détestait et qu'elle voulait sa mort. Et c'est difficile parce que dans ma tête, un enfant, ça peut pas naître mauvais. Ça peut pas naître méchant, puis tu sais, c'est vraiment la question, là, l'inné versus l'acquis, donc nurture, nature. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment comme si elle était née, puis elle avait beaucoup de mal à l'intérieur d'elle. Tu sais, oui, sa mère est morte quand elle avait 15 ans, c'est sûr que ça peut traumatiser, mais depuis toute jeune, elle était comme ça, difficile, méchante, mesquine. Puis ses parents essayaient de lui donner tout l'amour du monde, il lui donnait tout ce qu'elle voulait. C'était des bons parents, en fait, son père et sa belle-mère, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Donc ça restait une enfant extrêmement difficile, et vous allez voir que ça va pas du tout s'améliorer par la suite. Rendue adulte, Shirley devenait de plus en plus manipulatrice. Et vous allez voir que ça va atteindre des niveaux inimaginables. Quand elle a eu 17 ans, elle a rencontré un certain Randy Rivardo, qui est complètement tombé sous son charme. Parce que malgré tout, Shirley restait une très belle femme. Elle était attirante, charmante, malgré ce qu'on pourrait croire, là. Ils ont décidé assez vite de se marier. Et les parents de Shirley, ben évidemment, ils étaient aux anges parce qu'ils étaient comme, enfin, tu sais, elle a trouvé quelqu'un de bien. On espère que ça va la changer, même si à chaque jour, ils craignaient qu'elle gâche tout. Et effectivement, ça n'a pas été très long avant que Shirley montre son vrai visage. Une fois, alors que son nouveau mari Randy est à l'école, il est rentré à la maison pour trouver sa femme avec le visage en sang. Et selon son histoire à elle, il y a un homme qui est entré dans leur trailer et il l'a attaqué et il l'a violé. La police a été appelée, il y a une enquête qui a commencé, mais bien vite, le shérif s'est rendu compte que c'était loin d'être vrai, ça marchait pas du tout l'histoire de Shirley, puis qu'elle s'était elle-même infligée ses blessures. En 1975, Shirley a accouché d'une belle petite fille, Nikki, mais malheureusement, l'arrivée de son enfant va rien changer à son comportement. Shirley ne s'en occupait pas du tout. En fait, c'était sa belle-mère, Lara, qui devait s'occuper de la petite Nikki, du bébé. Et en plus, son mariage n'allait pas bien non plus parce que Shirley et Randy se disputaient toujours parce que Randy travaillait très très fort et Shirley ne faisait que dépenser toutes les payes de son mari. Puis après l'avoir endurée pendant plusieurs mois, Randy a décidé de la quitter, la laissant seule avec la petite Nikki. Maintenant rendue à 24 ans, ça n'a pas été long pour que Shirley rencontre quelqu'un de nouveau, un certain Danny Long qui vivait dans le même bloc appartement que Shirley. Ensemble, ils ont eu un autre enfant, une petite fille nommée Sammy, un beau bébé blond aux yeux bleus. Mais malheureusement, entre Danny et Shirley, ça n'allait pas du tout. Ils se disputaient, ils criaient, ils se battaient, ils cassaient de la vaisselle. Et après 5 ans de vie commune, ils se sont divorcés. Lorsque Nikki essaie de se souvenir de son enfance, bon, elle n'a pas des souvenirs super clairs, c'est normal, mais le quelques moments qui l'ont vraiment marqué, elle se rappelle qu'une soirée, alors qu'elle avait 5-6 ans, elle dormait dans son petit lit, puis elle s'est réveillée parce qu'elle n'était pas capable de respirer. Et elle a regardé au-dessus d'elle et il y avait sa mère avec un oreiller par-dessus elle. Donc elle avait essayé de l'étouffer. Nikki, bien sûr, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait eu de la misère à respirer, ça le fait peur. Et Shirley l'a comme gaslighté en lui disant qu'elle avait tout imaginé, que c'était juste un rêve. Aujourd'hui, Nikki sait que c'était pas du tout juste un cauchemar. En fait, c'est ce qui l'attendait pour les années à venir. Pas longtemps après son divorce de Danny Long, Shirley va rencontrer Dave Notek, qui va devenir son partenaire pour le reste de sa vie, là, à peu près. Dave Notek, c'était quand même un beau garçon. C'était un gars qui faisait du surf, il était assez athlétique. Il était super doux, même peut-être trop gentil, trop doux. Et tu sais, Shirley, même rendue à l'âge adulte, c'était encore une très très belle femme. T'sais, elle avait des beaux cheveux roux, des yeux bleus perçants. Et elle pouvait avoir n'importe quel homme qu'elle voulait parce qu'elle avait un physique très très attirant. Malheureusement, du côté personnalité, c'est là que ça se corsait. Dave et elle ont commencé à se fréquenter plus sérieusement et il est vite tombé en amour avec Shirley. Ils se sont mariés en décembre 1987 et cette journée-là, Dave a pris une décision qu'il va regretter jusqu'à la fin de ses jours. Il a marié probablement l'une des femmes les plus horribles aux États-Unis. Face à la personnalité de Shirley, Dave, lui, s'était comme transformé en quelqu'un de soumis, facilement manipulable, qui faisait pas mal tout ce que sa femme lui demandait. Et Shirley, face à quelqu'un comme lui, c'est comme si sa personnalité mauvaise montait d'un cran. Elle devenait de plus en plus violente. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'elle l'a frappé. Et lui, ben, il voulait pas trop se défendre parce que, bon, on frappe pas une femme, évidemment. Fait qu'il se laissait faire. Mais tu sais, Shirley était pas du monde. Tu sais, elle le frappait, elle le claquait, elle lui donnait des coups de poing, elle le poussait, elle criait, elle l'accusait de choses qu'il ne faisait pas, elle claquait des portes. Vous voyez le genre. Et Dave, ben, il endurait ça, mais il était profondément malheureux, même qu'il avait commencé à travailler de plus longues heures pour être plus souvent loin de la maison, et parfois le soir, il voulait même pas rentrer chez lui, donc il préférait dormir dans sa voiture. Shirley Notek était une femme violente et personne n'y échappait, pas ses enfants ni son mari. Et en fait, elle se servait de tout ce qu'elle avait sous la main comme une arme pour faire du mal à ses proches. Donc une spatule, une canne à pêche, un câble électrique, elle s'en servait pour frapper ses victimes, ses êtres chers finalement. Et c'est assez étrange parce que c'est comme si elle aimait frapper, faire du mal à ses proches. Elle en ressentait comme une grosse énergie, une adrénaline, ça lui procurait du plaisir. Et si c'était pas de l'abus physique, c'était carrément de l'abus psychologique, donc elle les insultait, les harcelait, les menaçait. Une fois, par exemple, elle a fait croire à ses filles qu'il n'y avait plus d'eau dans la maison, donc si les filles voulaient prendre une douche, elles devaient aller dehors, puis c'était Shirley qui les arrosait avec une hose, de l'eau glaciale évidemment, fait que les filles ne pouvaient plus aller aux toilettes non plus, donc quand elles avaient besoin d'aller aux toilettes, elles devaient demander la permission à leur mère, et ça c'est devenu une règle dans la maison jusqu'à temps que les filles soient rendues adultes et qu'elles déménagent. Et comme vous voyez, c'était vraiment du contrôle psychologique, t'sais, ça va loin quand tu exiges que tes enfants te demandent la permission pour aller aux toilettes. Puis tu sais, c'était des filles quand même jeunes, pré-puberté un peu, c'est difficile de pas prendre de douche à cet âge-là, parce que bon, dans tous les âges, mais pour des petites filles, tu veux être propre, tu veux te faire des amis, mais là, ces filles-là allaient à l'école sans avoir pris de douche pendant plusieurs jours, sans se changer de vêtements, donc évidemment, les autres enfants riaient d'elles, c'était vraiment une enfance de merde, là. Et le pire, c'est que Shirley, ben, elle aimait attaquer ses filles, les torturer, les blesser, les insulter, mais la plupart du temps, les filles n'avaient aucune idée de ce qu'elles avaient fait de mal. Elles essayaient toujours de se comporter parfaitement, mais pour des raisons qu'elles ignoraient, leur mère se fâchait, genre elle passait de normal à extrêmement frustrée, en colère. Une fois, Shirley, sans aucune raison apparente, elle a juste pogné sa fille, l'a plaquée au mur, et il y avait un clou dans le mur, donc ça a comme fait un gros trou dans le crâne de sa fille. Et ce qui est difficile dans cette histoire-là, c'est que malgré toutes ces horreurs, ben personne ne savait qu'est-ce qui se passait à la maison parce que ils faisaient vraiment tout pour avoir l'air d'une famille parfaite. Tu sais, on peut même le voir sur leurs photos d'enfance, ça a l'air de des enfants qui sont heureux, qui aiment leur mère. Tu sais, ils ont pas l'air d'être maltraités autant que vous allez voir qu'ils vont l'être. Mais en réalité, c'était très très loin d'être la joie. Et tu sais, même la belle-maman de Shirley, Lara Watson, qui aimait pas vraiment sa belle-fille, t'sais, elle gardait souvent Nikki et Sammy. Et jamais les filles ont parlé en mal de leur mère alors qu'elles avaient confiance envers leur grand-mère. Elles savaient qu'elles pouvaient se confier, mais c'est jamais arrivé. Et Shirley était extrêmement manipulatrice. Elle avait comme un pattern qu'elle faisait. Donc, elle torturait ses enfants, elle les blessait, elle les insultait, elle était méchante. Mais du jour au lendemain, même d'une seconde à l'autre, là, elle devenait douce, affectueuse, maternelle, gentille. Fait que les enfants, t'sais, ils cravaient ces moments-là, ils avaient besoin des moments de gentillesse de leur mère. C'est pourquoi les filles enduraient toutes les méchancetés. Donc Shirley, ce qu'elle faisait, elle frappait sa fille, puis après elle la prenait dans ses bras, puis elle lui disait qu'elle l'aimait. En fait, c'est fou parce que c'est vraiment le cycle de violence conjugale, donc des femmes ou des hommes, mais surtout des femmes qui sont battues par leur conjoint. C'est souvent ça, finalement, elles vont se faire battre, elles vont se faire maltraitées par leur conjoint. Mais après, elles vont avoir des petits moments de tendresse, des petits moments d'amour. Donc, elles vont un peu endurer tout le malheur, la méchanceté pour avoir ces petits moments-là. Mais plus ça va, plus il y a des mauvais moments, puis moins il y a des beaux moments, tu sais. Et ce qui est weird, c'est que je pense pas, ou je sais pas, en fait, si Shirley se voyait comme une mère violente, comme une mère méchante. Par exemple, une fois, toute la famille regardait la télévision, puis c'était Mommy Dearest qui passait à la télévision, un film qui met en scène une mère violente et cruelle. Et Shirley s'est juste tournée vers ses filles, le visage complètement choqué, et elle a dit « Je peux pas croire qu'une mère ferait ça à ses enfants. » Fait que c'est comme si elle était pas consciente qu'elle, elle faisait bien pire. Une autre chose que Shirley aimait faire, c'est que parfois, durant la nuit, de manière aléatoire, elle sélectionnait une de ses filles, parfois les deux en même temps, parfois une, parfois l'autre, des fois les deux dans la même soirée. Bref, elle les faisait se mettre nues et les envoyait dehors, parfois même en plein hiver, il faisait très froid, et là, elle ordonnait à son mari de les arroser avec de l'eau glaciale, donc avec la hose. Et Dave, qui faisait toujours ce que sa femme lui ordonnait, s'exécutait. Donc c'était horrible, très souffrant, mais surtout humiliant. Une fois, elle a fait ça à Nikki, donc elle a arrosé, aspergé d'eau en plein hiver. Et ensuite, elle a rentré sa fille et elle l'a placée dans un bain d'eau bouillante. Pas chaude, pas tiède, pas très chaude, bouillante. Et là, Nikki, dans l'eau, elle pleurait, elle suppliait sa mère d'arrêter, mais Shirley continuait. Et honnêtement, au départ, c'était vraiment Nikki qui était la plus torturée. Une fois, sa mère l'a enfermée dans une sorte de grange qu'il y avait sur leur terrain. Et Nikki, bon, ça fait quand même longtemps, fait qu'elle est pas sûre, mais elle croit qu'elle a passé l'été entier dans la grange. Donc, elle dormait là, elle faisait ses besoins là. Donc, sa mère lui donnait genre une chaudière de Home Depot pour que sa fille fasse ses besoins à l'intérieur. Finalement, Nikki avait juste le droit de sortir de la grange pour vider son seau, sa chaudière. Et honnêtement, je pourrais parler pendant des heures de ce que Shirley faisait à ses filles, puis on va en parler un peu plus. Mais là, on va passer à une autre partie de l'affaire qui est quand même assez importante. En octobre 1985, Shirley a commencé à communiquer fréquemment avec son petit-neveu, Shane Watson, de 10 ans, qui était le fils de son frère Paul. Paul qui était souvent en prison, donc ne pouvait pas s'occuper de son fils. Shirley qui voulait aider son neveu à se sortir de cette situation-là, qui voulait s'en occuper, a donc décidé de l'accueillir chez elle pour s'en occuper, pour l'héberger, ce qui est vraiment une bonne action. Tu sais, quand tu vois ça, tu disais, c'est étonnant qu'elle fasse ça. Pourquoi? Vous allez voir. Shane, c'est un petit gars qui était super cute, qui était attachant, amical. Il venait d'un quartier défavorisé. Comme musique, il aimait beaucoup Bon Jovi, le heavy metal. Et ses cousines se sont immédiatement liées d'amitié avec lui. Et elles le faisaient sentir vraiment comme si c'était leur frère, comme s'il faisait partie de leur famille. Et Shirley, au départ, elle voulait vraiment qu'il se sente comme à la maison, donc elle lui a préparé une belle chambre avec des nouveaux meubles, un nouveau lit, des nouveaux draps, pour qu'il se sente bien. Puis comme moi, vous devez vous poser des questions, tu sais, c'est vraiment hors caractère pour elle de faire ça. Pourquoi elle fait ça? Mais pas longtemps après son arrivée, le Shirley a commencé à le faire travailler beaucoup. Bon, tu sais, c'est normal qu'un enfant aide dans la maison, je crois pas que c'est quelque chose de mauvais, mais là, elle lui dressait des longues listes de tâches à accomplir durant la journée, puis elle le faisait travailler toute la journée. Puis dans son cas, à lui, c'est comme si, ben, il y avait toujours des nouvelles tâches qui s'ajoutaient à la liste. Tu sais, un enfant, faut qu'il soit un enfant. Oui, il peut aider dans la maison, mais il faut quand même qu'il ait des loisirs, du temps pour se détendre, pour s'amuser. Mais lui, c'était pas ça. Et s'il n'accomplissait pas les tâches comme il faut, elle le faisait payer. Par exemple, quelque chose qu'elle avait commencé à faire, c'est qu'à chaque fois qu'il accomplissait pas une tâche comme elle le voulait, elle lui retirait des items dans sa chambre. Donc ça a commencé par des oreillers. Il n'y avait plus d'oreillers. Ensuite, elle lui a enlevé sa couverture. Il n'y avait plus de couverture. Ensuite, elle lui a enlevé son lit. Donc Shane a fini par juste dormir directement sur le sol, sans couverture. Puis savait qu'il fallait pas qu'il rouspète parce que sa situation allait empirer. Bien vite, Shane est aussi devenu une victime de Shirley. Et c'est vraiment tordu là, ce qu'elle faisait. Elle aimait beaucoup humilier ses enfants. Par exemple, elle aimait souvent demander à Nikki, sa fille, et à Shane de se mettre nu, complètement nu, et de danser un slow au milieu du salon, juste comme ça, sans musique. Et c'était vraiment terrible parce que les enfants pleuraient, ils étaient humiliés. Tu sais, deux jeunes enfants, 12-13 ans, des cousins qui doivent se voir nus danser ensemble, et ça pouvait durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et Dave, le mari de Shirley, il était là dans la pièce, il disait pas un mot. Et avec du recul, on peut voir que les filles de Shirley ont comme réalisé que leur mère se servait beaucoup de la nudité pour contrôler ses enfants, pour les humilier. Mais finalement, Shirley, ben, plus le temps avançait, moins elle se contentait de ses enfants. Donc, c'est comme si elle avait besoin d'une autre victime pour satisfaire ses pulsions. Comme une prédatrice qui cherchait des nouvelles proies, puis ça sera pas long avant qu'elle trouve une autre victime. C'est en 1988, donc un an après l'arrivée de Shane, que Cathy Loreno, de 30 ans, va arriver dans le décor. Et vous allez voir que ce qui suit est très horrible. J'ai pas d'autres mots. Cathy, c'était une connaissance de Shirley. T'sais, au départ, ils n'étaient pas vraiment amis, elles se connaissaient, mais elle a quand même assisté au mariage de Shirley et Dave. Et plus ça allait, bon, plus elles se sont rapprochées, puis Shirley et Cathy sont devenues comme des meilleures amies, entre guillemets. Cathy, elle aidait plus Shirley à la maison, c'est comme devenue une nanny, si on veut. Malgré qu'à la base, c'était une coiffeuse professionnelle, mais là, elle n'avait pas d'emploi, fait que Shirley a dit « ben, viens m'aider à la maison ». Et au départ, c'était vraiment juste une amie, donc elle allait souvent rendre visite à la famille Notech, elle coiffait les filles, elle potinait avec Shirley, et vraiment, les enfants l'aimaient beaucoup, c'était une femme qui était super gentille. Malheureusement, elle avait quand même eu une vie triste, elle parlait plus à sa famille, elle était un peu seule au monde, pas vraiment d'amis, pas de conjoint, pas d'enfants, elle était vulnérable, elle avait pas d'argent, pas d'emploi, donc pour Shirley, c'était une proie parfaite. En décembre 1988, Shirley était à nouveau enceinte. Elle aura une troisième petite fille qu'elle va nommer Tori. Et comme elle est enceinte, elle a eu un bébé, elle avait trois autres enfants à s'occuper, elle est vite devenue débordée, entre guillemets. Donc Cathy a décidé d'emménager chez les Notech pour carrément venir en aide à Shirley. On peut voir, c'était une relation assez malsaine parce que Cathy, elle idolâtrait Shirley. Elle l'aimait beaucoup, c'était sa meilleure amie. Donc, elle voulait lui plaire à tout prix. Et Shirley, on a comme réalisé qu'elle avait toujours le même pattern avec ses enfants. T'sais, elle aimait tomber enceinte, elle aimait s'occuper d'un bébé naissant. T'sais, elle était très maternelle quand c'était un bébé, mais là, après, quand ses filles vieillissaient, c'est comme si elle arrêtait de les aimer, elle arrêtait de s'en occuper, puis elle commençait à les torturer. Malheureusement, comme avec toutes ses relations, littéralement, la relation entre Shirley et Cathy va très vite se détériorer. Shirley a commencé à faire des longues listes de tâches pour que Cathy l'aide à la maison, comme elle le fait avec Shane, finalement. Donc, elle faisait la cuisine, le ménage, elle s'occupait des enfants. Cathy faisait vraiment de son mieux pour tout faire parfaitement, mais c'était jamais correct pour Shirley, qui finissait par se fâcher, par l'insulter, lui crier après, et elle a commencé à la frapper. Et elle prenait tout ce qu'elle avait sous la main pour frapper son amie, donc un couteau, un livre. Elle aimait lui faire mal. Même qu'une fois, elle a juste pris Cathy, elle l'a lancée au sol. Cathy était sur le sol, comprenait pas trop ce qui se passait. Et là, Shirley a commencé à lui donner plein de coups de pied sur le corps, dans le ventre. Mais là, après, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle la prenait dans ses bras, elle lui disait qu'elle l'aimait, et tout redevenait un peu normal. Quand Cathy a emménagé, c'était une femme qui était heureuse, souriante. Elle aimait raconter des histoires aux filles pour les faire rire. Mais là, plus le temps avançait, plus sa personnalité s'effaçait. Et aussi, plus ça allait, plus la torture empirait. Ça arrivait souvent que Shirley enfermait Cathy dans un garde-robe pour la punir, entre guillemets. Et aussi, comme elle l'avait fait avec Shane, elle commençait à lui retirer ses effets personnels. Donc ça a commencé, bon, avec ses choses personnelles à elle. Ensuite, elle lui enlevait ses vêtements, ses sous-vêtements. Puis c'était rendu qu'elle n'avait plus rien à se mettre, donc Cathy devait se promener nue dans la maison, devant tout le monde. Donc elle faisait le ménage nue, elle cuisinait nue, et elle ne disait rien. Et elle aussi, comme les enfants, c'était rendu qu'elle devait demander la permission pour aller aux toilettes. Et elle ne pouvait pas prendre sa douche, pas prendre de bain, donc si elle voulait se laver, c'est Shirley qui l'envoyait dehors, nue, et qui l'arrosait. Et ce qui est le plus horrible là-dedans, ou pas le plus horrible, mais presque, c'est qu'elle obligeait ses enfants aussi à torturer Cathy. Mais tu sais, ses filles étaient quand même jeunes, là. Elles voulaient pas le faire, elles aimaient Cathy, mais elles avaient peur de leur mère. Fait qu'elle pouvait pas lui refuser, parce qu'elle savait qu'elle-même allait se faire battre si elle disait non. Puis aussi, elle savait que tant et aussi longtemps que Cathy était là, ben c'était vraiment la victime numéro un de Shirley, donc elle s'en prenait moins à ses filles, moins à Shane. Mais à plusieurs reprises, là, elle demandait à Shane de battre Cathy. Puis Shane, qui aussi avait peur de Shirley, ben il s'exécutait. Puis vous voyez à quel point c'est tordu, Shane, il battait Cathy, puis elle essayait de s'enfuir, puis lui courait après. Et là, Shirley, elle ouvrait les bras à Cathy. Puis là, elle était comme, tu sais, je te protège, c'est beau. T'es avec moi. Shane, arrête de la battre. Arrête de lui faire mal. Puis elle protégeait Cathy. Donc, vous voyez comment elle arrivait à contrôler tout le monde psychologiquement. C'est vraiment fou. Et par exemple, Nikki en parle dans le livre. Le livre que je vais recommander à la fin, là, c'est vraiment... toutes mes sources viennent de là, pas mal. Elle répond un peu à la question que vous devez vous poser, qu'on se pose tous. pourquoi Cathy restait là? Tu sais, c'est une adulte, elle était libre de quitter, si elle voulait. Pourquoi elle restait là puis elle endurait tout ça? En fait, c'est qu'elle était tellement rendue comme brainwashée qu'elle osait plus s'enfuir. T'sais, elle avait une voiture, elle aurait pu partir, elle aurait pu appeler la police. C'est arrivé une couple de fois qu'elle a essayé de s'enfuir, de plus revenir. Mais Charlie réussissait toujours à la retrouver et elle réussissait aussi à la convaincre de revenir à la maison. Il faut quand même être pas désespéré, mais il faut vraiment avoir peur, là, tu sais. Une fois Cathy a réussi à s'enfuir, complètement nue, et dans le voisinage, courir complètement nue, tu sais, faut vraiment que tu veuilles partir, là, tu sais, c'est clair. Mais encore une fois, Shirley l'a retrouvé et l'a convaincu de retourner à la maison. L'affaire, c'est que Shirley avait carrément volé la confiance de Cathy, elle l'avait manipulée, elle l'avait joué dans la tête. Et ça se voyait aussi beaucoup dans le physique de Cathy. Elle avait beaucoup maigri. À chaque jour, Cathy devenait de plus en plus faible. Elle avait des bleus, des égratignures partout sur le corps. Elle commençait à perdre ses dents. Et Shirley lui avait coupé les cheveux très, très courts, très laids. Encore une fois, pour l'humilier. Elle n'avait pas le droit de prendre de douche, comme j'ai dit plus tôt. Fait que pour la laver, ça arrivait que Shirley lui versait de l'eau de Javel partout sur le corps. Ce qui, évidemment, si elle avait déjà des blessures, des bleus, ça la faisait crier de douleur. Mais aussi, il faut le dire, un truc qui aidait Shirley à contrôler Cathy, c'est qu'elle la droguait. Elle lui donnait énormément de médicaments, là. Elle lui donnait du lorazépam, qui est fait pour l'anxiété, qui aide à dormir, du nitroquick, de l'athénolol, du ramipril, du paroxétrine, qui est aussi pour l'anxiété, et du Prozac. Donc, c'est un méchant cocktail dangereux qui la rendait un peu amorphe. À ce stade-ci, la famille de Cathy, même si elle était loin d'être proche de sa famille, mais tu sais, il y avait quand même une petite relation, là, la famille commençait à s'inquiéter. Elle savait que Cathy vivait chez Shirley, donc la famille appelait à plusieurs reprises chez Shirley, qui ne répondait pas. Une fois, elle a répondu, puis elle a dit « Ah, Cathy vit plus ici, elle a déménagé, je sais pas elle est où. » Malheureusement, même si elle continuait à torturer Cathy davantage, mais elle torturait encore Nikki et Sammy. Un peu moins, mais quand même. La seule qui échappait, c'était Tori, son nouvel enfant, son nouveau bébé. Écoutez, ça, c'est horrible. Une fois, elle a attaché Shane, ses poignets, ses chevilles. Elle le fait se mettre nu. Et lui a appliqué de la crème Icy Hot, donc de l'antiflogestine, sur le pénis. Ça faisait extrêmement mal, il pleurait, il criait, il lui suppliait d'arrêter et Shirley ne faisait que le regarder et rire. À deux reprises, Shane aussi a tenté de s'enfuir et les deux fois, Shirley a fini par le retrouver. Elle l'embarquait dans la voiture, lui disait à quel point elle avait eu peur, qu'elle regrettait, qu'elle l'aimait. Il finissait par rentrer et rester. Au final, tout le monde avait peur de Shirley. Tu sais, Dave, qui était souvent au travail, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il voyait plus Cathy. Il la voyait jamais. Il a demandé à ses filles où était Cathy et elles ont répondu qu'elle était dans la Pump House, qui est en fait un genre de cabanon derrière la maison. Tu sais, c'était froid, il faisait noir, c'était humide. C'était loin d'être un endroit où habiter. Dave a confronté sa femme, il a dit « Pourquoi tu la mets là? Pourquoi elle est là? » Tu sais, c'est pas correct. Shirley a répondu que en fait, elle protégeait Cathy et faisait ça pour son bien parce que ses enfants torturaient Cathy. Et Dave, ben, il a acquiescé. Il a pas posé plus de questions que ça. Mais l'affaire, c'est que Cathy devait y rester pendant des jours, parfois même des semaines. Il faisait froid. Elle dormait seule, nue, sur le sol glacé. C'est tellement triste. Puis il y a un bout dans le livre qui me vraiment fait verser une larme. Je sais pas si vous allez trouver ça aussi triste que moi. C'est comment c'est formulé, puis je vais vous lire mot pour mot, là. Je l'ai traduit en français. Je veux pas déformer les propos de l'auteur, mais je vais vraiment vous le lire, là. Vous allez voir. Une fois, Sammy était dehors, près du cabanon, quand elle a entendu le son de la voix de Cathy. Allô? Elle est allée à la porte verrouillée du cabanon et s'est penchée. Elle n'osait pas ouvrir la porte. Cathy savait qu'elle ne pouvait pas lui demander de le faire de toute façon. Shelley avait averti tout le monde que Cathy était dans le cabanon en guise de punition, mais aussi que ça l'aiderait à guérir et à prendre soin d'elle. « Est-ce qu'il pleut dehors? » a demandé Cathy. « Un peu, il y a quelques heures. »« Pas maintenant, Cathy, » lui a répondu Sammy. « Ah bon? » elle a répondu de sa voix douce et rauque. j'ai cru entendre de la pluie. Je sais pas pourquoi c'est venu me chercher autant. Elle est enfermée, elle entend un peu de la pluie, elle entend une voix, elle demande « Est-ce qu'il pleut? » Je sais pas. Ça m'a bouleversé entendre ça. Puis c'était tellement difficile pour Cathy, mais c'était aussi difficile pour les enfants qui étaient en quelque sorte complices sans le vouloir. Puis en même temps, c'était des victimes, eux aussi. Une fois, Shane a dit genre « Fuck this, je sors Cathy de là. » Parce qu'à ce stade-ci, Cathy était vraiment blessée, son visage était enflé, ses dents tombaient, pourrissaient. Elle avait clairement besoin d'être vue par un docteur. Donc Shane, il a ouvert la porte, il a dit à Cathy de sortir, de s'enfuir. Mais Cathy ne bougeait pas. Elle faisait juste regarder Shane, amorphe, sans dire un mot. Shane l'encourageait à sortir, lui disait « T'sais, go, c'est le moment ou jamais, pars d'ici. » Mais Cathy s'est mise à pleurer. Elle était trop faible pour se lever. Elle a juste dit « Si je pars, ils vont finir par me retrouver. Tu le sais. » Malheureusement, ça aura probablement été la dernière opportunité pour Cathy de s'enfuir. Et elle l'a manqué. En fait, elle se laissait mourir. Elle avait juste abandonné. Plus le temps avançait, plus Shane commençait à se défendre. En fait, se défendre, c'est un grand mot, mais il disait plus ouvertement son opinion. Il avait moins peur de se faire torturer, de se faire blesser, de se faire frapper, parce que ça arrivait toujours de toute façon. Fait qu'il se disait « Regarde, rendu là, je vais dire ce que je pense. » Il avait maintenant 16 ans et il n'en pouvait plus de vivre cette vie-là. Et Shirley, mais elle commençait à sentir qu'elle perdait le contrôle. Elle demandait donc de l'aide à son mari pour discipliner les enfants, Shane, Nikki et Sammy. Shirley, ben, elle disait à Dave que les enfants étaient mal élevés et qu'il fallait que Dave l'aide à les remettre en ordre. Il acceptait, mais il était incapable de faire du mal à Cathy. Premièrement, mais c'était pas son enfant, donc elle avait pas besoin d'être disciplinée. C'était une adulte. Mais aussi, elle aidait tellement dans la maison. T'sais, elle disait pas un mot plus fort que l'autre, donc pourquoi elle avait besoin d'être punie? En même temps, non, il lui faisait pas de mal, il refusait de lui faire du mal, mais il la défendait pas non plus. Moi, je me demande vraiment pourquoi les voisins, les gens du village n'ont pas réalisé avant qu'est-ce qui se passait. T'sais, il y a quand même une femme nue qui s'est enfuie en courant, il y a des voisins qui l'ont vue. Pourquoi ça n'a pas sonné une cloche? Pourquoi ils n'ont pas appelé la police à ce moment-là? Et c'est sûr qu'il y avait des cris qui sortaient de cette maison-là. Tout le monde se faisait battre, se faisait, encore une fois, torturer, martyriser. C'est sûr qu'il y avait des cris, mais pourquoi personne n'a entendu, tu sais? Moi, je pense, tu sais, c'était dans les années 80-90. J'ai l'impression qu'à cette époque-là...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Là, tu voulais pas te mêler de ce qui te regardait pas. Ça dépend pour des gens, tu sais, je pense qu'en... Je sais pas. En fait, c'est en campagne, peut-être que les gens étaient plus comme renfermés sur eux-mêmes puis voulaient pas causer de problèmes. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Là, on est plus sensible à tout ça, plus conscientisé. Mais à cette époque-là, c'est sûr, c'était différent. Une fois, Dave a carrément réalisé là, que Cathy n'allait pas bien. Elle était mourante. Puis s'il agissait pas maintenant, elle allait mourir. Donc, elle devait absolument consulter un médecin. Donc, il a proposé à sa femme, il a dit « Garde, moi, je vais l'amener à l'hôpital. Occupe-toi-en pas, moi, je vais m'en occuper. » Puis Shirley, c'est comme si elle comprenait pas pourquoi son mari voulait l'amener à l'hôpital, comme si Cathy en avait pas besoin. Mais elle devait se dire en même temps « Ben là, si on l'amène à l'hôpital, ils vont réaliser qu'elle a des blessures. Cathy va finir par parler, par les dénoncer. » Puis aussi, Shirley se disait « Ben, elle va finir par aller mieux, là, elle va guérir, il y a pas de stress. » Et ça a été la seule et unique et dernière tentative de Dave pour sauver Cathy. C'est vraiment comme si Shelley prenait plaisir à torturer, à faire mal à Cathy. Et en écoutant cette histoire-là, tu te dis « Ok, Cathy a atteint le fond, là. Elle peut pas souffrir plus que ça, ça peut pas aller plus loin que ça. » Mais non, Shelley en rajoutait toujours. Elle continuait à faire des choses terribles. Tu sais, Shelley, elle contrôlait les gens dans la maison pour les empêcher d'aller à la toilette. Donc, ils devaient demander la permission. Puis, s'ils avaient envie, durant la nuit, ils pouvaient pas aller aux toilettes. De peur de réveiller Shelley, donc ils ne demandaient pas la permission. Donc, Cathy a eu l'idée de uriner et déféquer dans un plat Tupperware. Et là, je sais pas comment elle a fait ça. Bon, en fait, elle était plus toute là, mais elle a oublié le plat Tupperware dans la cuisine. Ce qui a complètement fait tilter Shelley. Donc, ce qu'elle a fait, elle a demandé à Dave de waterboard Cathy, donc de lui mettre la tête dans l'eau jusqu'à temps qu'elle se noie un peu, puis là, il remontait, prenait une respiration, waterboard. Fait qu'il fait ça devant Nikki et Sammy. Ah, c'est horrible, c'est dégueulasse. Après ça, Shelley a juste jeté Cathy nue, faible, dans le pump house. Mais elle était tellement faible là, à ce stade-ci que fallait que Shelley l'aide à marcher. Elle était rendue tellement maigre, son corps était rempli de bleu, sa peau était rouge, elle pendait, une horreur. C'est comme si Cathy n'était plus humaine aux yeux de Shelley. Elle la traitait comme un animal. En fait, Shelley avait des animaux, elle les traitait mieux que Cathy. En fait, on traite pas un animal de même anyway, mais elle la traitait comme une chose. Tu sais, juste pour vous dire à quel point ça allait loin, là, elle prenait des aliments périmés dans son réfrigérateur, donc des fruits pourris, de la viande avariée. Elle mettait ça dans un blender, faisait un smoothie avec et obligeait Cathy à le boire. Une autre fois, elle a pris du sel, elle l'a mis dans un verre et a obligé Cathy à le manger. Et là, Cathy a comme un peu résisté, mais elle a fini par le faire. C'est une psychopathe, là, Shelley, ça n'a pas de sens. Vers la fin, Cathy, elle dormait toute la journée. Elle avait de la difficulté à ouvrir les yeux. Une fois, Shelley, elle le fait entrer dans la maison pour lui faire prendre une douche. La pauvre Cathy, elle avait de la difficulté à juste être assise. Elle avait de la difficulté à marcher. Puis c'est Sammy qui lui a donné le bain. Et heureusement, ça a été un des derniers moments, ou un des seuls moments de tendresse que Cathy a vécu. Sammy l'a lavé avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Mais après le bain, Shelley était tellement faible qu'elle a tombé. Elle a frappé comme le mur de la douche qui était en vitre et qui a éclaté en mille morceaux. Cathy s'est faite des blessures partout sur le corps, des coupures très très profondes. Shelley, bien sûr, elle l'a pas amenée à l'hôpital ni quoi que ce soit. Elle a juste mis genre un ou deux bandages sur ses blessures et elle a décidé de la faire déménager dans la salle de lavage plutôt que dans la pump house, ce qui était un peu mieux, mais on s'entend, là, c'est pas une chambre avec un lit, là, loin de là. Une journée après l'école, alors que Shelley était occupée à faire des tâches dehors, Sammy est juste allée voir dans la salle de lavage si Cathy était correcte. Elle lui a pris la main, et là, elle a réalisé que la main de Cathy était glacée. Elle a appelé son nom 2-3 fois. « Cathy, Cathy, t'es-tu correcte, Cathy? » Cathy a comme réussi à hocher la tête un peu, mais elle était pas encore morte. Mais elle s'est évanouie tout de suite après. Quand Dave est rentré du boulot, il entendait comme des sons qui venaient de la salle de lavage. C'était pas des grognements, c'était pas des soupirs, c'était comme quelque chose qui venait du fond de la gorge. Il est allé voir si Cathy allait bien, mais c'était beaucoup trop tard. La moitié de son visage s'affaissait. Elle avait des bleus partout. Elle pouvait plus parler. En fait, le bruit de gorge, c'était que Cathy, elle avait vomi. Et le son qu'elle faisait, c'est en fait qu'elle s'étouffait avec son vomi. C'est là qu'elle a arrêté de respirer. Shane et Dave ont essayé de la réanimer, mais ils n'ont pas été capables. Cathy Loreno est finalement morte au bout de ses souffrances. Et cette mort fut sans doute une énorme délivrance pour elle. C'était tellement triste et horrible. Les enfants se sentaient coupables, ils étaient tristes, ils étaient en colère. Shelley, elle n'arrêtait pas de pleurer et Dave ne disait rien. Lorsqu'il a été interrogé plus tard, Dave va admettre qu'après ce moment-là, tout s'est déroulé super rapidement. Il y a des souvenirs assez flous, mais ils se rappellent qu'ils ont brûlé le corps de Cathy dans leur cour durant la nuit. Ça leur a pris en tout 5 heures pour tout brûler. Ensuite, à l'aide des chaudières du Home Depot, Dave les a remplis des cendres de Cathy et il a conduit jusqu'à la mer pour s'en débarrasser. Mais c'était loin d'être fini parce que l'étape la plus difficile, je crois que c'était la suite, c'était de convaincre les enfants de ne pas parler parce que Dave et Shirley savaient très bien que si les enfants parlaient, ben ils allaient se ramasser en prison. Ils ont donc inventé une grosse histoire qu'ils ont pratiqué des dizaines de fois là, pour être sûr qu'ils avaient tous les détails correctement. Donc Cathy aurait rencontré un camionneur nommé Rocky avec qui elle est tombée en amour, elle s'est enfuie avec lui. Ensuite, ils ont écrit des cartes postales provenant de Cathy qui racontaient son périple au Canada, au Mexique, en Californie, accompagnée de Rocky et qu'elle était tellement bien et tellement en amour. Heureusement, le seul aspect positif de cet événement, c'est que ça aura enfin poussé Shane à s'enfuir en février 1995 et il n'est plus jamais revenu à la maison. Mais en même temps, sa fugue était quand même hors caractère, si on veut. Bon, il s'est enfui, oui, mais il n'avait pas dit adieu à ses cousines, qui étaient rendues ses sœurs, là, carrément. Il n'avait pas dit adieu. Et aussi, la façon qu'il est parti, et aussi où il est parti, ça lui ressemblait pas du tout. Apparemment que Shirley, elle avait eu un appel de Shane pendant que les filles étaient à l'école, puis lui a dit qu'il avait quitté pour Kodiak Island en Alaska pour aller pêcher. Selon ses dires, Shane allait super bien, faisait dire que sa famille lui manquait. Mais même Lara, qui est la grand-mère de Shane, elle trouvait pas que ça avait vraiment du sens, t'sais. Il serait pas parti du jour au lendemain même sans aviser personne. Il aurait au moins avisé ses sœurs, ses cousines. Mais aussi Shane, il trouvait ça vraiment important de terminer l'école. Il n'aurait pas juste abandonné ses études au milieu de l'année scolaire. C'était vraiment pas ce qu'il disait qu'il voulait faire, mais bon, il était parti, puis je pense que ses cousines, bien qu'elles s'ennuyaient beaucoup de lui, ben elles trouvaient que c'était une bonne décision de sa part, puis qu'elle allait enfin pouvoir bâtir sa propre vie. Il n'y avait pas juste Shane qui en avait marre et qui avait décidé de s'enfuir. Nikki aussi, qui était rendue plus vieille, n'en pouvait plus de cette vie-là. Et à cause que Shane et Cathy n'étaient plus là, c'est Nikki qui était devenue la cible numéro un de sa mère. Et en plus de ça, la violence avait solidement escaladé. Une fois, Nikki était dehors en sous-vêtements parce qu'elle avait plus de vêtements. Elle faisait des travaux. Sa mère s'est juste approchée d'elle avec un couteau et l'a attaquée. Fait que Nikki s'est enfuie en courant et Shirley a fini par l'attraper et l'a coupée, là, vraiment profondément à la jambe. Nikki a réussi à s'enfuir, elle avait la jambe qui saignait profusément. Elle a passé la nuit dans la forêt et le lendemain, elle est rentrée à la maison et Shirley faisait comme si rien n'était. Heureusement, Nikki, elle avait un rêve qu'elle convoitait depuis longtemps, donc c'était d'aller à l'université et bien sûr de s'éloigner le plus possible de sa mère. Dès qu'elle s'est diplômée du lycée, sa mère sentait justement que Nikki partirait, donc c'est là qu'elle a commencé à serrer la vis encore plus. Premièrement, elle a commencé par enlever tous les vêtements de Nikki. Donc Nikki, elle avait juste une vieille paire de jogging sale et usée. Ensuite, bien sûr, un classique, elle lui a enlevé sa chambre. Donc là, Nikki devait dormir sur le plancher du salon. Ensuite, elle a arrêté de lui donner de l'argent et de l'amener à l'école. Donc là, Nikki, sans argent, sans vêtements, sans auto, ben ça voulait pas mal dire qu'elle pouvait pas réaliser son rêve et d'aller à l'université. Heureusement, malgré tout ça, le mental de Nikki était comme de plus en plus solide. Elle tenait tête à sa mère, et ça, Shirley le sentait aussi. Donc clairement, elle sentait qu'elle perdait le contrôle sur sa fille, et pour la punir, elle a décidé de l'envoyer vivre chez sa tante Trish, qui est la sœur de Dave, qui vivait à plus de 4 heures de route, et Nikki connaissait pas vraiment là, cette tante-là. Mais ça a quand même été une bonne nouvelle, parce que Trish était une femme super douce, maternelle, aimante envers Nikki, qui avait malheureusement jamais connu ça. Elle a aussi commencé à travailler avec sa tante, qui nettoyait des maisons, fait que Nikki, elle aimait ça, parce qu'elle se sentait pour une fois responsable, elle recevait son propre argent, puis c'était la première fois de sa vie qu'elle sentait qu'elle avait de la valeur, tu sais, qu'elle... Les gens appréciaient ce qu'elle faisait et elle n'était pas sans valeur, comme sa mère lui disait depuis toujours. Puis évidemment, elle voulait plus partir de là. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y avait encore Sammy et Tori à la maison. T'sais, Sammy est assez vieille pour comprendre que sa soeur était partie puis c'était une bonne nouvelle, malgré qu'elle s'ennuyait d'elle. Elle disait, t'sais, au moins, elle est mieux. Mais Tori, elle, elle était tellement trop jeune pour comprendre, fait qu'elle était dévastée que sa grande sœur ait décidé de les abandonner comme ça. Éventuellement, Nikki est retournée à Washington, où sa mère vivait, mais elle n'est pas rentrée chez elle, elle s'est trouvée un petit job, elle s'est louée un appartement. Elle était loin d'être riche, mais pour une première fois dans sa vie, elle était heureuse et libre. Sammy, de son côté, ça allait super bien à l'école, tu sais, c'était une belle fille, elle était populaire, avait plusieurs amis. Et elle aussi, là, elle en avait marre de sa mère, elle voulait plus endurer ce que sa mère lui faisait, puis elle voulait plus la protéger non plus. Elle était décidée à changer de vie. À l'été 1997, elle a enfin décidé de s'enfuir et d'aller vivre chez sa grand-mère, Lara, qui l'a accueillie à bras ouverts. Et enfin, pour une fois, Sammy était elle aussi libre. Tristement, maintenant que Nikki, Sammy, Shane étaient partis, Cathy était morte, et évidemment, la nouvelle victime de Shirley, c'était sa fille, Tori. Et encore là, elle allait vraiment dans la nudité pour humilier, donc elle faisait faire des jumping jacks dans la cour complètement nue à Tori. D'autres fois, elle lui examinait le vagin. Une autre fois, écoutez ça, elle a demandé à Tori de couper ses poils pubiens pour les mettre dans son album de bébé. Donc c'est Shirley qui a dit ça, je veux garder ça en souvenir, coupe-toi les poils pubiens. Tori, elle voulait pas, elle trouvait ça tellement gênant, mais Shirley lui a dit, genre, let's go, tes sœurs l'ont fait, il y a rien de gênant là-dedans, fais-le. Donc, Tori est allée dans la salle de bain, s'est coupée ses poils à contre-cœur, elle les a remis à sa mère, qui l'a juste regardée, puis a dit, pourquoi tu me donnes ça? Puis là, Tori, qui comprenait pas, a dit, ben, c'est toi qui m'as demandé ça. Et là, Shirley est juste partie à rire, a dit, je veux pas ça, je voulais juste voir si j'étais capable de te manipuler. Est obligé à faire ça. Tu sais, vous voyez à quel point c'était de la torture psychologique. Bon, la vidéo est déjà assez longue, là, ça achève. J'espère que vous aimez la vidéo, finalement. Mais je peux pas passer à côté de la partie de Ron qui m'a... Ça m'a complètement brisée. Déjà que j'étais comme là, en lisant cette histoire-là, là, ça m'a détruite. Fait que si vous croyez avoir atteint votre limite, là, vous êtes pas prêts. Ron Woodward, c'était un homme de 56 ans qui était vraiment seul dans la vie. Quelques années plus tôt, il avait été en couple avec un autre homme, mais ça avait mal fini et Ron s'était fait briser le cœur. C'est un homme qui vivait seul dans un trailer, il y avait plein de chats, ça puait dans le trailer. Il était vraiment vulnérable, c'était une victime parfaite finalement. Shirley l'avait rencontré au travail et tout de suite, ils se sont liés d'amitié. Et la petite Tori aimait beaucoup Ron, elle l'appelait Uncle Ron. Comme elle l'avait fait avec Cathy, Shirley décidait d'aider Ron, de le prendre sous son aile et de lui offrir de venir vivre chez elle. Et bien sûr, tout a commencé vraiment bien, tu sais, c'était une belle amitié au départ. Bon, ça avait l'air de ça, ça l'était pas du tout. Mais au départ, Shirley lui avait réservé la petite chambre de Sammy, donc il était super bien installé, il avait son propre lit, sa commode, sa table de chevet, sa petite lampe. Vraiment, pour lui, comparé à son trailer sale, c'était un luxe. Il avait même amené quelques livres, des effets personnels. Et pour Shirley, c'était win-win parce que Ron l'aidait à faire des tâches dans la maison. Et lui, ça lui convenait parfaitement parce que, pour une fois, il était plus seul. Il aimait beaucoup la petite Tori, s'entendait bien avec. Puis, il adorait Shirley, fait qu'il était comme... Pourquoi pas, j'ai enfin comme une famille. Mais cette fois-ci, ça a vraiment pas été long que le switch s'est fait. Shirley, qui était chaleureuse, accueillante, est très vite devenue froide et méchante. Donc ça a commencé par des insultes. Donc elle traitait Ron du F-word. Elle lui disait qu'il la dégoûtait, qu'il était une mauvaise influence pour sa fille, que c'était un loser inutile. Ça a tellement escaladé rapidement. Elle a commencé par le frapper. Puis ensuite, elle a arrêté de lui donner à manger. Elle l'a obligé à prendre des médicaments pour finalement le droguer. Et c'est fou parce que Ron, c'était un homme très intelligent, il était brillant, il était cultivé. Mais dès qu'il est rentré dans la vie de Shirley, il a perdu toute sa personnalité. Il était devenu lent, soumis, plus de personnalité. Et il travaillait là, de 7h le matin à 8h le soir à faire des tâches que Shirley lui exigeait. Après ça, ben, la même routine qu'avant, Shirley a commencé par lui voler ses livres. ses effets personnels, ses chaussures, sa chambre. Elle a fini par le faire dormir sur un petit matelas très mince dans la chambre d'ordinateur pour le faire dormir sur le sol. Comme les autres, elle a enlevé son droit d'aller aux toilettes. Devait demander la permission pour aller aux toilettes. Et c'est fou, là, comment on réalise que cette femme était capable de contrôler une personne intelligente, indépendante, un adulte. Faut quand même que tu sois fort, là, pour faire ça. T'sais, ça prend une forme d'intelligence, là, quand même. C'est frustrant de voir ça. Il y a quand même une amie de Ron qui s'inquiétait pour lui, qui le cherchait. En fait, Ron, comme je vous ai dit, c'est un homme très seul. Il avait pas de famille. Il parlait plus vraiment à sa famille. Pas d'amis. Mais il y avait quand même cette amie-là, Sandra. Elle appelait à plusieurs reprises chez les Notech. À chaque fois, Shirley répondait, elle disait « Ah, Ron, il est pas là, Ron, il est occupé, Ron, il veut pas te parler, Ron, il travaille dehors, il peut pas te parler. » Sandra, elle trouvait ça vraiment louche, évidemment, mais elle voulait pas abandonner de sitôt. Ron a fini par appeler son amie. Il semblait super nerveux, mais il a quand même dit que ça allait bien. Sandra lui a offert de l'aide, elle lui a proposé de travailler pour elle, à son restaurant, de vivre chez elle, là, carrément, tu sais. Elle lui offrait une porte de sortie très claire, très prudente, mais il a refusé assez rapidement, puis il a dit « Non merci, Shirley, elle m'aide déjà. » Tristement, l'apparence de Ron se détériorait à vue d'œil. Il était juste devenu un fantôme de lui-même, il était rendu très maigre, très lent. Une fois, il a décidé de s'enfuir en courant, nu-pied, en sous-vêtements. Mais Shirley a fini par le retrouver. Elle l'a embarqué dans la voiture, il s'est excusé, il a dit qu'il ne le ferait plus jamais. Pendant ce temps-là, Nikki, Sammy et leur grand-mère avaient un plan. En fait, les deux filles avaient avoué à leur grand-mère que Shirley et Dave avaient en fait tué Cathy. Et les filles n'ont même pas eu besoin de fournir des preuves à Lara, de s'expliquer. Lara savait très bien de quoi était capable sa belle-fille. Donc, ce que Lara a fait, elle a tout de suite appelé le chef de la police locale pour que Nikki et Sammy lui disent tout ce qu'elle savait. Et Nikki, pour une fois, elle sentait là, que quelque chose allait changer, t'sais, qu'elle faisait le bien en avouant tout ça. Donc, elles ont donné tous les détails qu'elles savaient sur la mort de Cathy, mais il n'y a rien qui s'est produit. Ils n'ont même pas questionné Shirley. Et pendant ce temps-là, ben, la même histoire se répétait avec Ron. Shirley, par exemple, ce qu'elle faisait, elle obligeait Ron à se donner des coups de poing à lui-même. Donc, il se frappait lui-même, il pleurait, il saignait, il avait mal. Et elle l'obligeait à continuer. Et il continuait. Une autre fois, elle obligeait Ron à boire sa propre urine. Il le fait. Une autre chose qu'elle aimait beaucoup faire, c'était d'obliger Ron à se mettre à quatre pattes sous le bureau. Donc, il se mettait à quatre pattes et là, il demandait de sortir. Il disait « Bon, je peux y aller, là, je suis à quatre pattes. » Elle le laissait là pendant des heures puis elle dit « Tu vas juste pouvoir sortir quand je vais t'entendre pleurer. » Donc là, il se mettait à pleurer pour pouvoir sortir d'en dessous du bureau. Et là, elle lui disait « Ah, tu fais juste faker. C'est même pas des vrais pleurs. Tu vas rester là. » Et Tori, ben, comprenait pas pourquoi sa mère faisait ça. Elle comprenait pas non plus pourquoi Ron ne partait pas. C'était un homme, c'était un adulte, pourquoi il restait là et il continuait à accepter de se faire torturer? La dernière fois que Sandra a vu son ami Ron, c'est quand ils sont allés manger ensemble au restaurant de Sandra en 2002. Et c'est fou quand même, là, il sortait de la maison, il allait dans un lieu public, seul, avec son ami, en qui il avait confiance. Mais il revenait toujours chez Shirley. C'est fou, ça. Ron n'allait pas bien du tout. Il semblait faible, il était lent, il était sale, alors que normalement, c'était un gars super réveillé, super le fun, super allumé. Et là, il restait juste une dent dans la bouche. Shirley lui avait coupé les cheveux, c'était horrible. Et il y a quand même de quoi de fou qui s'est passé, puis c'est pas mal grâce à cet incident que l'histoire s'est terminée comme on la connaît aujourd'hui. Puis il y a... Bon, c'est un livre là, entier sur cette histoire-là, fait qu'il y a quand même des détails que j'ai choisi de ne pas mentionner parce que ça aurait rallongé la vidéo de 30 minutes, là, puis on comprend quand même la base. Mais bon, je vais vous raconter, il y a le shérif Jim Bergstrom qui a reçu une ordonnance restrictive, soit un restraining order, contre Ron de la part de sa mère. Donc, je veux pas trop embarquer là-dedans parce que ça finira plus. Donc, pourquoi sa mère a envoyé une restraining order contre Ron? Là, c'est pas super important, là, honnêtement, à ce stade-ci. Là. Mais bon, le shérif s'est quand même présenté chez Shirley parce qu'il savait que Ron vivait là. Puis il fallait qu'il lui donne les papiers d'ordonnance restrictive, il fallait qu'il lui donne en main propre, finalement. Fait que quand le policier s'est approché de la maison de Shirley, il a vu Ron qui était dehors, qui travaillait dehors. Mais Ron, en le voyant le policier, a décidé de s'enfuir en courant, d'aller se cacher dans la forêt. Puis le policier, il comprenait pas trop, il était comme « Hey Ron, genre, je t'ai vu, faut juste que je te donne des papiers, tu peux revenir. » Le policier a cogné à la porte, il voulait parler à Shirley, lui demander ce qui se passait. Personne n'a répondu. 15 minutes plus tard, Shirley a appelé le 911. Elle était un peu en panique, un peu stressée, en colère. Le policier lui a expliqué « Hey, je suis juste allée chez vous parce que je voulais donner des papiers à Ron. » Et là, Shirley a répondu « Ben, Ron vit pas chez moi, il vit à Tacoma. » Et le shérif n'était pas dupe, puis il savait très bien qu'elle mentait parce qu'il l'avait vu, Ron, il l'avait vu courir puis s'enfuir dans la forêt. Juste avant de raccrocher, il a parlé à Shirley de Cathy Loreno, que sa famille était inquiète pour elle et que c'était pas vraiment son genre de partir avec son nouveau petit ami camionneur. Sa famille l'avait officiellement reporté comme disparue et le frère de Cathy avait même engagé un enquêteur privé pour la retrouver. Shirley, elle lui a répondu tout simplement qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Cathy depuis très longtemps et qu'elle n'avait aucune idée d'où elle était. Le shérif savait que ça n'avait pas vraiment sens. Il croyait pas du tout les paroles de Shirley. Et il avait entendu les rumeurs de la ville que Shirley se faisait appeler Crazy Shirley. Quelques jours plus tard, le 18 avril 2003, Shirley a reçu une lettre par la poste. Je vais vous dire ce que ça disait. « Les coups de feu que t'as entendus hier soir provenaient de Cathy. Comme Jésus-Christ, elle s'est réveillée de la mort et est retournée pour se venger. » Cette lettre a tellement fait paniquer Shirley parce qu'effectivement, la veille, il avait entendu des coups de feu. Fait que la personne qui avait envoyé ça devait vivre pas trop loin, mais aussi, elle savait que Cathy était morte. Donc Shirley s'est vraiment posé la question, c'est qui a envoyé cette lettre-là? C'est-tu ses filles? C'est-tu Shane? Est-ce que c'est un membre de la famille de Cathy? Et là, elle est devenue un peu paranoïaque. Et tout ce stress que Shirley vivait, fallait qu'elle l'extériorise, bien sûr. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se défoulait davantage sur Ron, comme si c'était possible d'en faire plus. Le pauvre Ron, il était tellement rendu faible, il travaillait sur le toit à un moment donné, et il a juste perdu pied, et il est tombé en bas du toit. Il restait couché sur le sol, un peu abattu. Et au lieu de venir l'aider, Dave l'a juste regardé, puis il a dit « Remonte sur le toit. » Et refais la même chose, jette-toi en bas. Ce que Ron a fait. Tori, dans sa chambre, elle entendait Ron crier, hurler de douleur. Elle ne savait pas quoi faire pour l'aider. Et puis ça recommençait, puis ça recommençait. Monte sur le toit, jette-toi en bas. Remonte, rejette-toi en bas. Et il le faisait à chaque fois. Je pense qu'à ce stade-ci, il voulait mourir, là. Ron, à la fin, commençait un peu à protester, puis il disait « Shirley, ma chérie, je peux plus, là, j'ai mal. » Et Shirley continuait à l'obliger à faire ça. Puis je me demande, là, en lisant ça, j'étais comme « Comment il a été capable là, de survivre à ça? Tomber d'un toit 5, 6, 7 fois, là, comment tu peux survivre tout court? » Et c'est pas juste ça, là, ses deux pieds étaient complètement ensanglantés parce qu'il avait plus le droit de porter de chaussures. Puis il avait pilé sur de la vitre, donc ça y avait fait des grosses, grosses coupures. Et pour le soigner, Dave et Shirley lui trempaient les pieds dans de l'eau bouillante avec de l'eau de Javel. C'est dégueulasse. Puis malgré tout ça, ben, il continuait à faire ses travaux dehors sans chaussures. Une autre fois, ils ont plongé les pieds dans l'eau bouillante, brûlante. C'est tellement chaud que ça a brûlé les pieds de Ron et sa peau a commencé à peler. Imaginez-vous à quel point ça doit faire mal, puis il endurait tout ça, il disait rien. C'était comme un martyr. Plusieurs années plus tard, Dave a avoué qu'apparemment, il savait pas que l'eau de Javel, c'était mauvais pour la peau. Tu sais, Shirley lui demandait toujours d'en acheter des gallons à l'épicerie, puis elle en utilisait sur Ron, sur Cathy, sur ses filles, puis lui, il pensait sincèrement que ça aidait. Il a même dit qu'il pense pas que Shirley savait que c'était aussi mauvais de faire ça. Hey, tu sais, c'est fou parce qu'après toutes ces années-là, il la défend encore. Plus le temps avançait, plus la condition de Ron empirait. C'est la même chose que Cathy, mais lui, il sentait de plus en plus mauvais. C'est vraiment comme si genre ses organes pourrissaient carrément. Un matin, Tori s'est réveillée et Ron était nulle part. Donc elle a demandé à sa mère, un peu inquiète, « Il est où Ron? Qu'est-ce que t'as fait avec? » Et Shirley lui a répondu calmement, « Ron est chez Mac. » Pour vous mettre un peu en contexte, là, je veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais Mac, en fait, c'est un vieil homme, un vieillard que Shirley avait rencontré à son travail. C'est un homme qui était malade, mourant, Et Shirley, bien sûr, s'était offert de s'en occuper. Donc, elle s'occupait de Mac. Bien sûr, elle faisait pas ça pour être gentille. En fait, elle faisait ça pour avoir l'héritage de Mac, qui est un homme qui avait pas d'enfant, il avait pas de femme, donc il était un peu seul. Donc, Shirley espérait avoir son héritage. Et fun fact, il est mort, mais il a tout légué. Je savais pas que ça se faisait. Il a légué tout ce qu'il avait à son labrador. Fait que Shirley a tout fait ça, s'est occupé de lui. Là, je ris, mais c'est pas drôle. Mais elle s'est occupée de lui jusqu'à la fin de ses jours pour finalement recevoir zéro argent. Bref, Mac était mort récemment, puis Shirley avait encore accès à son appartement pour aller s'occuper du labrador jusqu'à temps qu'il trouve une nouvelle famille. Donc, Ron avait disparu. En fait, Shirley l'avait envoyé à l'appartement de Mac. Tori, ben, continuait à demander à sa mère à chaque jour, il était où Ron? Est-ce qu'il allait bien? Et Shirley continuait à lui répondre que oui, il allait bien, qu'il se reposait et qu'elle pourrait le visiter un peu plus tard. En réalité, Shirley n'avait aucune idée de si Ron allait bien parce qu'en fait, elle l'avait juste abandonné dans l'appartement de Mac. Elle l'avait laissé là sans lui rendre visite jusqu'à temps qu'il meure. Le matin du 22 juillet 2003, Dave a reçu un appel au travail. C'était sa femme qui lui demandait de rentrer le plus vite possible parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. En fait, son plus grand souhait s'était exaucé. Ron avait fini par mourir. Sans savoir quoi faire, elle a amené Ron sur son terrain dans sa grange où il y avait un gros congélateur et elle a placé son corps dans le congélateur. En arrivant à la maison, Dave s'est exécuté parce que, après tout, c'était pas la première fois qu'il se débarrassait d'un corps. Cette fois-ci, il n'a pas brûlé le corps de Ron, mais en fait, il a creusé un trou assez superficiel dans leur cour et il l'a enterré là. Pendant que tout ça se passait, Sammy et Nikki continuaient à essayer d'envoyer leur mère en prison, mais surtout, ils essayaient de sortir leur petite sœur de là qui avait maintenant 14 ans. Un matin, alors que Shirley regardait la télévision, Tori a décidé d'aller dans la grange. Et c'est là qu'elle a trouvé tous les effets personnels de Ron, dont ses sous-vêtements et ses bandages imbibés de sang. Tout de suite, Tori a eu un mauvais feeling. Là. Elle était comme, mais pourquoi c'est dans la grange? Pourquoi les bandages sont pas avec Ron? Pourquoi il n'y a pas ses sous-vêtements? Puis elle a été wise quand même parce qu'elle a décidé de prendre les objets qu'elle a trouvés et de les cacher. Le shérif Bergstrom a enfin réalisé qu'il y a de quoi qui clochait. Donc, il a accepté de rencontrer Nikki et Sammy pour qu'elles racontent toute leur histoire, mais aussi il était décidé à sortir la petite Tori de cet enfer. Le 8 août 2003, une tonne de policiers s'est présentée chez les Nortec pour arrêter le couple. Enfin. Et rendu au poste de police, ça a pris une heure pour que Dave éclate en sanglots. Et il avoue tout. Et il a vraiment tout déballé son sac. Là. Il a dit où il avait enterré Ron, où il s'était débarrassé des cendres de Cathy. Et après ça, tout s'est vraiment déroulé très vite. Les médias se sont emparés immédiatement de l'histoire, évidemment. Des photos de Cathy et de Ron étaient partout aux nouvelles. On voyait des gros titres là, comme « Des histoires d'abus et de morts en campagne de Raymond, où il habitait », ou bien « Un couple de Raymond se sont liés d'amitié avec trois inconnus qui ont disparu ». Mais il y a quand même une question qui restait en suspens. Qu'est-ce qui est arrivé au pauvre Shane? Est-ce que c'était vrai qu'il était allé en Alaska pour être pêcheur? Eh bien, je pense que vous en doutez à ce stade-ci. Assez vite, Dave a fini par avouer le meurtre de Shane Watson. Quand j'ai lu ça, j'étais comme « Oh mon Dieu, pas lui aussi! » Je suis devenue tellement triste, puis la façon qu'il l'a fait, c'est horrible. Shirley et Dave, en fait, se sont rendus compte que Shane avait pris des photos de Cathy alors qu'elle était morte. Fait que sur les Polaroid, on voyait carrément le corps de Cathy, le couvert de bleu, d'égratignures, de blessures. Et Shane avait décidé de garder et de cacher les Polaroid pour éventuellement dénoncer les Notec. Quand Shirley a trouvé les photos, elle a ordonné à Dave de faire quelque chose, c'est de régler la situation. Fait que Dave, il a juste amené son neveu Shane dans la grange. Il a attrapé une arme à feu et lui a tiré une balle derrière la tête. Et après ça, il a fait comme il avait fait à Cathy. Il a brûlé le corps de Shane et s'est débarrassé de ses cendres. En 2004, Dave Notek a été reconnu coupable du meurtre de son neveu de 17 ans et il a été envoyé 15 ans en prison. Shelley Notek, de son côté, a été reconnue coupable du meurtre au second degré de Cathy Loreno et de Ronald Woodward. Malheureusement, les procureurs n'ont pas été capables de la charger pour meurtre au premier degré, parce que bon, pour Cathy, il n'y avait aucun corps, aucune cendre, il n'y avait rien. Et pour ce qui est de Ron, il y a une autopsie qui a été faite sur lui, mais on n'a pas été capable de prouver comment il a été blessé, ni par qui exactement. Donc c'est tellement difficile d'entendre ça, mais il y a quand même eu de la justice, mais pas celle qu'on aurait souhaité, disons. Durant le procès de Shelley Notek, il n'y avait évidemment aucun membre de la famille dans la cour, mais elle a quand même pris le temps de parler. À travers quelques larmes, elle a dit « Dans cette prison, et dans cette cour, et dans cette communauté, et partout ailleurs, je suis reconnue pour être un genre de monstre horrible. J'en suis peur. Ceci dit, j'ai fait d'horribles erreurs. Cathy était mon amie. Elle avait de la valeur. Elle aurait été là pour moi, et moi, je n'ai pas beaucoup été là pour elle. Je n'étais pas là quand Cathy est morte. Pas là pour elle. » Shelley Notek a été sentencée à 22 ans de prison. Ce qui est rien, honnêtement. Le couple, séparément, ont fait leur temps en prison. En 2016, Dave est sorti de prison et il a demandé une ordonnance restrictive contre sa femme. Sammy et Tori ont fait la paix avec leur père. Elle continue à lui rendre visite, mais Nikki, elle, refuse catégoriquement de le voir. Shelley Notek, maintenant rendue à 68 ans, a été libérée de prison il n'y a pas très longtemps, en novembre 2022, fait que ça fait environ un an et demi. J'ai été tellement choquée de voir ça qu'elle n'a pas écopé de la prison à vie, là. Je suis pas la seule que ça a choqué, d'ailleurs, toute la communauté de Raymond était complètement en colère. Parce que c'est pas une femme qui a tué par erreur, là, t'sais. C'est une femme profondément mauvaise, puis je pense pas qu'elle change. Je pense pas qu'à 68 ans, elle tue d'autres personnes ou elle torture d'autres personnes parce qu'elle est rendue seule, là, anyway. C'est pas assez, là, 22 ans, c'est loin d'être assez. Pour les filles, ça a tellement dû être horrible, difficile de se sortir de tout ça, de ces traumatismes-là, puis juste de grandir puis de bâtir leur propre vie. Quand sa mère est allée en prison, Sammy, elle continuait à lui rendre visite et lui envoyait des petits cadeaux en prison. Ce qui est vraiment fou parce qu'elle est encore brainwashed après toutes ces horreurs, après toutes ces années. Elle veut quand même plaire à sa mère, tu sais. Nikki et Tori, elles, ne souhaitent plus jamais revoir leur mère. Aujourd'hui, Nikki, elle a vraiment bien réussi sa vie. Elle vit dans une maison à plus $1 million à Seattle. Good for her. Très contente de lire ça. C'est maintenant rendue une femme dans la quarantaine. Elle est mariée, a eu des enfants. Sammy, quant à elle, est retournée vivre dans sa ville natale. C'est aussi une femme dans la quarantaine. Elle travaille comme enseignante à l'école primaire. Et elle a aussi eu des enfants. Finalement, la jeune Tori est maintenant rendue dans la trentaine. Elle vit en Oregon. Ils travaillent dans les médias sociaux. Les trois sœurs sont encore très très proches. Elles se parlent presque à chaque jour, ce qui est vraiment une bonne nouvelle et ce qui est, je pense, c'est la meilleure façon de conclure cette vidéo. Malgré tout ça, malgré toutes ces horreurs, malgré tous ces traumatismes, les trois sœurs sont restées comme ça, là. C'est beau à voir, je trouve. J'aimerais terminer cette vidéo avec une recommandation de livre, bien sûr, donc le livre qui m'a aidé à faire cette vidéo. C'est « If You Tell » de Greg Olson. Greg Olson, que c'est pas le premier livre que je lis de lui, là, il est quand même connu dans le monde du true crime. C'est un excellent auteur. Je le dis souvent, là, c'est pas tous les livres de true crime qui sont intéressants et bons à lire, mais ça, c'est bien écrit, c'est beau. C'est pas écrit si gros. Je sais pas si c'est en français. C'est rarement en français, je vous dirais. Là, c'est rare qu'on traduit des livres, pour être honnête. Là. Même mes livres à moi sont pas traduits, puis ils ont quand même bien vendu. Mais c'est vraiment rare qu'il y ait des traductions de livres. Faut que ça soit vraiment multi best-seller. Puis c'est souvent de l'anglais au français et rarement le contraire. Je vais mettre le lien Amazon dans la barre d'infos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que je fais pas mal de vidéos longues ces temps-ci. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui m'ont dit « Ben là, 1h30, c'est ben trop! » C'est vrai que c'est beaucoup, 1h30. Mais je pense que la majorité aime ça, puis je le vois dans les vues. C'est pas si important les vues, mais je le vois quand même que ces vidéos-là sont plus populaires. Puis moi, j'aime encore plus faire ça. Fait que... Si vous aimez pas ça, ben il y a plein d'autres vidéos de 20-30 minutes, puis je pense que ça fait la job pour les gens qui aiment les vidéos plus courtes. Fait qu'on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que je vais être enfin installée dans mon bureau, là. J'ai vraiment hâte. Là, en ce moment, on est à la fin du mois de février. Ça va sortir d'après moi en avril, mars-avril. Ouais, je pense que la semaine prochaine, je vais avoir mon bureau. Je vais peut-être... suivez-moi sur les médias sociaux. Je vais peut-être faire un petit house tour si vous voulez voir ma nouvelle maison. C'est une maison centenaire. On l'aime beaucoup. On est très contents de ce changement. Puis on se voit la semaine prochaine ou l'autre d'après là, pour une nouvelle vidéo. Gardez le verre. Barrez vos portes. Over and out.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.